Bonjour chers auditeurs, Catherine Mann au micro pour vous présenter l'émission L'Esprit du Livre, qui vous présente chaque mois quelques livres de parution récentes ou moins récentes, en tout cas qui concernent directement ou indirectement la foi chrétienne. À mes côtés, le père Roger Willem, qui commence par vous présenter un premier ouvrage de Christian de Chergé, le prieur de Tibérine, dont le titre est « Lettre à un ami fraternel ». Il est paru aux éditions Bayard en janvier 2015, donc tout récemment.
Christian de Chergé entre à la trappe d'Aiguebelle en 1969. Il rejoint l'Algérie et le monastère de Tibérine en 1974, après deux années passées à Rome pour suivre des études d'arabe et d'islamologie auprès du père Maurice Bormans, un père blanc, il devient prieur du monastère en 1984. Et voilà que Christian de Chergé est assassiné avec six de ses frères le 21 mai 1996. Voici donc publié 74 lettres inédites de Christian de Chergé. Elles ont été adressées au père Bormans, qui a été son professeur de 1974 à 1996, depuis le monastère de Tibérine, mais un lien d'amitié les mettant en relation quotidiennement. C'était quelque chose d'essentiel qui était vécu par l'un et par l'autre. Comme le dit le père Bormann, on peut comprendre que devenu prieur, Christian de Chergé se devait désormais à sa communauté et à son ordre pour y témoigner de son projet. Ses recherches pouvaient enfin donner leurs fruits, d'autant plus que les membres de Ribat ne manquaient pas de lui exprimer alors à leur manière ce qu'il avait pressenti seul pendant longtemps, tout en bénéficiant de tout l'apport de ses intuitions spirituelles. Tout naturellement, les lettres adressées au père Bormann s'étaient ainsi faites rares et brèves. Mais, comme le dit le père Bormann, ne convenait-il pas que Christian grandisse enfin et que Maurice, que je suis, diminue sans pour autant disparaître? En effet, tout en participant de la vision eschatologique de l'histoire du salut exprimée par Christian en ses lettres, les chrétiens sont aussi appelés à rencontrer leurs partenaires musulmans dans la cité des hommes et à y dialoguer avec tous leurs frères en humanité pour y garantir de leur extrême diversité un vivre ensemble qui suppose qu'au-delà des polémiques et des apologétiques, les uns et les autres s'expliquent sur leurs approches différenciées des vérités auxquelles ils adorent et auxquelles ils adhèrent et des valeurs auxquelles ils croient. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est l'expression d'un homme qui est un chercheur de Dieu, Christian de Chergé. Et étant chercheur de Dieu, il brise les obstacles qui empêche la relation avec les êtres humains, si différents soient-ils. C'est pour cela qu'il a inauguré un type de rapport avec les musulmans, qui sont devenus ses frères, à tel point qu'il pouvait prier avec eux, faire silence avec eux, échanger au plus intime, lorsqu'ils étaient dans la difficulté, lorsqu'ils étaient éprouvés par toutes sortes de maux. Il était là présent. Oui, c'était extraordinaire ce qui s'est passé avec Christian de Chergé. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer son neveu, Hilaire de Chergé, qui a fait Polytechnique et qui était dans l'admiration de son oncle. Il vivait cette relation comme une foi, qui élargit l'horizon du croyant et qui lui permet de comprendre l'autre à la manière de Dieu. Ce n'est pas un pouvoir qu'il exerce, mais c'est un service qui s'instaure entre chacun. Et lorsque un ami était malade ou avait des ennuis de toutes sortes dans ce petit village qui était à proximité de Tibérine, Christian était toujours disponible pour être là, pour apporter son écoute, une qualité de présence et sa prière. C'était devenu ainsi une oasis de vivre ensemble qui permettait aux uns et aux autres de se distinguer par leur singularité de croyants, chrétiens et musulmans, et d'entraîner ainsi ceux qu'ils croyaient à élargir leurs horizons, à devenir un peu plus proches les uns des autres, non pas dans une attitude de triomphalisme, mais dans une attitude d'humilité, de présence, de service humble et caché. C'était ça la vie de Christian de Chergé, jusqu'au bout. Et ses lettres à un ami fraternel, c'est le père Bormans, Maurice, c'est un témoignage extraordinaire que beaucoup de lecteurs pourraient lire pour qu'ils se libèrent des préjugés qu'ils portent et qui ne leur permet pas d'être des croyants libres pour aimer et pour accueillir la vie. Voilà ce que nous apporte cet homme. La beauté de la vie, la main qui est offerte à l'autre pour faire un chemin bref ou plus long avec lui et se découvrir mutuellement comme aimés, vraiment aimés du même Dieu qui leur confie le pardon et la réconciliation à toute l'humanité.
Merci Père Willem. Le Père Willem nous parlait de Lettre à un ami fraternel, un livre de Christian de Chergé, le prieur de Tibérine, paru aux éditions Bayard en janvier de cette année.
Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.
Je vous présente à mon tour un livre dont la bibliothèque diocésaine de Chartres vient de faire l'acquisition. Il s'agit des Mémoires de Louis Bouillet, paru aux éditions du Cerf en mai 2014. Ces mémoires posthumes ont certainement beaucoup contribué à un colloque international qui s'est tenu à Paris en octobre 2014, un colloque organisé par l'Institut catholique et le Collège des Bernardins sur le thème « Actualité et fécondité d'un maître, Louis Bouillet ». En effet, Louis Bouillet fut l'un des plus grands théologiens du XXe siècle. Il fut entre autres membre de la Commission internationale de théologie avec Yves Congar, Henri de Lubac, etc. Il fut avec eux consultant au Concile Vatican II pour la liturgie, lui, la congrégation pour le culte et le secrétariat pour l'unité des chrétiens. Ses compétences pour la liturgie et l'écuménisme lui vinrent de recherches qu'il entreprit alors qu'il était pasteur protestant. Recherches qui le conduisirent à rencontrer l'Église orthodoxe, où il puisa une inspiration nourrie des pères de l'Église. Et il fit d'ailleurs sa thèse sur saint Athanase d'Alexandrie. Et enfin, après ce parcours, il entra dans l'Église catholique, où il devint prêtre de l'oratoire à l'âge de 31 ans. Ce fut un théologien éclectique qui a produit une œuvre énorme, ainsi que quelques ouvrages de littérature sous un pseudonyme. C'est en effet aussi un écrivain remarquable qui a reçu en 1999 un prix de l'Académie française. Et c'est avec cette qualité d'écriture qu'il nous donne ses mémoires. Mémoires qui non seulement nous font entrer dans son parcours, tellement riche et intéressant, mais nous font participer aux grands événements qui ont bouleversé le monde et l'Église, en nous brossant ainsi une chronique de l'histoire de l'Église au XXe siècle. avec tous les problèmes d'une crise qui aboutira au Concile Vatican II, et qui ne se termineront pas avec celui-ci, car les interprétations des conclusions du Concile continuent toujours de créer des polémiques et des divergences, même aujourd'hui. Et, nous dit-il, bien des problèmes sont déjà apparus en cours de concile, car le but commun, qui était pourtant clairement défini comme volonté de retour aux origines du mystère chrétien, a déjà été compris de manière très différente selon les participants. Et Louis Bouillet, qui a le don du récit et de la description des situations, nous brosse un portrait avec un humour caustique de ses confrères, avec leurs qualités et leurs défauts. Ici, aucune langue de bois. Il nous fait partager ses admirations pour les grands esprits, comme Paul VI, mais dénonce sans hésitation les médiocrités, les insuffisances, les manœuvres sournoises de tous ceux qui lui paraissent incompétents. Or, ce n'est jamais méchant, car sa sévérité exprime plutôt ses déceptions. Mais le ton est incroyablement drôle, et il est vrai que certains portraits un peu féroces déclenchent un rire libérateur. Et c'est ce rire qui permet de supporter ce qu'on découvre des coulisses des rapports humains, parfois bien décevants, compliqués, plein d'incompréhension, d'antagonisme, de manipulation, voire de malveillance, et de comprendre que l'Église n'est pas préservée de toutes ces difficultés. Mais l'humour du père Bouillet révèle aussi ses désillusions, qu'il a réussi à compenser en menant une vie extrêmement humble, soit au service de la vie paroissiale, à laquelle il tenait beaucoup, soit au contraire en allant enseigner dans les grandes universités du monde entier, soit encore en se retirant dans de modestes ermitages. Le dernier mot de ses mémoires est « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Il semble que Louis Bouillet a été un électron libre du catholicisme du XXe siècle, avec un authentique désir d'œcuménisme, avec une aspiration passionnée à découvrir en profondeur la tradition de l'Église, mais sans cautionner les crispations des traditionalistes fanatiques, ni pour autant accepter les innovations débridées. Il cherchait une troisième voie entre les pseudo-traditions d'un conservatisme apeuré et un réformisme trop intrépide, oublieux de ses origines. C'est en ce sens que Louis Bouillet est encore tout à fait moderne et que ses mémoires sont un véritable viatique pour nous aider à trouver l'équilibre dans les turbulences de l'Église d'aujourd'hui. Il faut lire ces mémoires de Louis Bouillet, d'autant qu'elles sont complétées d'une abondance de notes de Jean Duchesne, qui est son exécuteur littéraire, et qui aide à très bien comprendre tout le contexte historique. Donc ce livre « Mémoire de Louis Bouillet » se trouve à la bibliothèque diocésaine à Chartres, rue Saint-Aimant.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Je repasse la parole au père Robert Wilhelm, Roger Wilhelm, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Robert, excusez-moi père, je vous ai changé de prénom, je suis un peu fatiguée. Il va nous parler maintenant d'un livre de Valérie Duval-Poujol, dont le titre est « 10 clés pour comprendre la Bible ». Il est paru aux éditions Empreinte Temps Présent, il n'est pas tout neuf, il est d'avril 2011.
Bien que convaincu de l'importance, de l'autorité et de l'actualité de la Bible pour leur vie, de nombreux chrétiens se heurtent à des difficultés qu'ils ne parviennent pas toujours à surmonter. Comment comprendre la Bible? Comment identifier dans ses divers enseignements et textes les repères sûrs pour prendre les orientations sûres sur le plan éthique, familial, professionnel ou encore spirituel? Comment trouver dans la Bible les réponses aux questions que le lecteur se pose aujourd'hui? Comment percevoir le sens donné par Dieu à tel passage de l'Ancien ou du Nouveau Testament et ensuite l'appliquer à ma vie? Quelle rencontre est-elle possible avec tous ces personnages et ces récits, à la fois si hauts en couleur mais également enracinés dans une culture distante de plusieurs millénaires? Au fil des pages, Valérie Duval-Poujol emploie souvent le terme d'actualisation pour décrire le processus d'application à notre temps des enseignements bibliques. Comment parvenir à une telle actualisation, à la fois personnalisée et respectueuse du texte? Notre auteur propose quelques clés pour que le lecteur accède à une meilleure intelligence de la Bible. Ainsi, la parole pourra jouer son rôle de lampe sur le chemin de la vie. Il ne suffit pas de dire que la pensée de Dieu pour ma vie se trouve dans la Bible, encore faut-il établir comment la découvrir. L'autorité des Écritures, qui est un postulat de base, constitue en réalité une invitation à un formidable travail de méditation et de réflexion. Se forger à partir de la Bible des convictions personnelles pour vivre sa foi en ce 21e siècle est un parcours à préparer sérieusement et l'enjeu est capital. Ce guide est un passionnant voyage au cœur de la Bible. Il s'adresse à toutes celles et ceux qui ont soif de mieux comprendre son message. Valérie Duval-Poujol, exégète protestante, enseigne le grec biblique à l'École des langues et civilisations de l'Orient ancien à l'Institut catholique de Paris, dont elle est également directrice adjointe. Elle est aussi membre du comité scientifique responsable de la traduction œcuménique de l'Église. Oui, le but de cet ouvrage est de montrer une voie, d'ouvrir une porte pour faciliter la démarche d'actualisation des Écritures du lecteur. Rappelons ce que nous dit l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Trois étapes composent l'approche principielle que développe l'auteur. Comprendre le texte, identifier le principe, proposer une actualisation. Alors, Valérie Duval-Poujol présente une panoplie d'outils permettant de comprendre le texte dans son contexte et d'en dégager un principe, puis une actualisation. Quel est l'effet de la Bible dans notre vie? C'est la question que nous pose l'auteur. Ces paroles sont-elles porteuses de culpabilisation morale oppressante? Or, c'est fondamentalement le chemin du bonheur que trace la Bible, un parcours libérateur qui suit une belle ligne de la libération d'Égypte à la liberté en Christ. Et le but de la démarche présentée dans ce livre, c'est justement de permettre au texte de s'offrir et de libérer son parfum de vie, c'est de lui permettre de nous rencontrer dans nos cheminements personnels et de nous faire entendre la voix du Créateur qui veut faire de nous des sujets du Verbe. La lecture des Écritures, inspirée et inspirante, devrait conduire à cela. Sommes-nous serviteurs du texte ou ses esclaves? Suivons-nous la lettre ou l'esprit du texte? Les textes de la Bible sont-ils pour nous des paroles de condamnation qui mènent à la mort? comme les mots que Pilate grave dans le bois de la croix? Ou bien sont-ils porteurs de vie, ouvrant un avenir à chacun, comme les paroles que Jésus écrit sur le sable pour libérer une femme que l'on accusait par une lecture négative du texte? Voilà ce qui est en toile de fond de ce merveilleux livre que nous recommandons vivement pour vivre autrement l'approche de la Bible et devenir ainsi des lecteurs intelligents, c'est-à-dire capables de lire en vérité ce que nous dit le message biblique d'une richesse infinie et qui nous fait introduire ainsi dans un univers qui est à la fois très lointain, mais étonnamment contemporain. C'est aujourd'hui que la parole de Dieu se manifeste. Encore faut-il faire l'effort de la comprendre, s'offrir le temps de la méditer, de la ruminer en quelque sorte, et d'être ainsi, avec cette parole, porteur d'espérance pour ceux que nous rencontrons. C'est une lecture qui rend la foi beaucoup plus large, beaucoup plus rénovée par le souffle de l'Esprit. Et c'est une parole qui génère en tout croyant la beauté de la vie, la richesse d'une parole qui lui est confiée et la vive espérance de la résurrection qui se découvre au fil des pages, qui est la présence du ressuscité et qui nous apprend à lire l'Écriture pour découvrir ce qu'il est, ce qu'il était, ce qu'il devient.
Merci Père Roger. Donc le Père Willem nous présentait ce livre « 10 clés pour comprendre la Bible » de Valérie Duval-Poujol, édition Empreinte Temps Présent d'avril 2011.
RGC.
Je vous parle à présent à mon tour d'un ouvrage issu de la réflexion biblique. Ce livre vient d'être acquis par la bibliothèque diocésaine. Il est du père Claude Lichter, dont le titre est « L'intrigante bénédiction ». Il est paru au CERF dans la collection « Lire la Bible » en mai 2013, donc pas tout à fait récent non plus. Le père Lichter est un prêtre belge, un théologien bibliste, enseignant et animateur de groupes bibliques. Il s'est ici intéressé à différents récits bibliques où il est question de bénédiction. Et ce sujet est très multiforme. Bénir est un acte divin. C'est Dieu qui bénit sa création. Mais aussi les hommes bénissent Dieu. Bénir fait alors partie des louanges, des expressions de gratitude. Et enfin, il existe des bénédictions que les hommes se donnent entre eux. Et tout cela amène aussi, bien sûr, à leur opposer les malédictions. Dans la Bible, les bénédictions apparaissent d'abord dans des contextes cultuels et liturgiques. Car bénir fait partie des attributions des prêtres, comme c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui dans l'Église. Mais tous les croyants sont appelés aussi à bénir, et c'est-à-dire à apporter une parole de vie dans les multiples circonstances du quotidien pour tisser des liens positifs et créateurs d'unité entre les hommes et rester en communion avec Dieu. Pour le peuple hébreu, les bénédictions qui viennent de Dieu sont la source d'une prospérité matérielle et d'une abondante descendance. Elles sont généralement soumises à la condition de la fidélité d'Israël à son obéissance au commandement de l'Alliance. Mais on trouve aussi des bénédictions qui expriment la gratuité des dons de Dieu. En reconnaissance des bénédictions de Dieu, des bénédictions humaines montent vers Dieu. Et dans la Bible, elles sont largement présentes dans les psaumes, associées aux prières et aux actions de grâce. Pourtant, le livre du père Lichter articule seulement 3 études de récits afin de montrer la dynamique des bénédictions. Il choisit un texte de la Genèse, le livre de Tobie et l'évangile de Luc, donc pour le Nouveau Testament. La Genèse va montrer que la bénédiction de Dieu ne peut circuler que si l'alliance préside aux relations humaines et si la vie fraternelle l'emporte sur les conflits. Le livre de Tobie fera plus découvrir le processus de transmission dans les liens de paternité. Et grâce à l'évangile de Luc, l'auteur montre comment Jésus passe du statut de celui qui est béni à celui de bénissant. Et comment cette mutation s'accompagne d'une extension du champ de la bénédiction depuis un cercle familial jusqu'au peuple d'Israël et enfin à l'ensemble des nations. La fin de l'ouvrage est consacrée à la bénédiction vécue dans l'Église catholique avec des commentaires de rituels de bénédiction avec l'objectif de mieux relier leurs sources bibliques aux attentes des êtres humains, les attentes des personnes. Ce livre n'est pas très gros, mais d'une grande densité, donc pas forcément très facile d'accès. Il montre le haut niveau théologique de son auteur, qui est docteur en théologie, spécialiste de l'Ancien Testament, et surtout ce livre met en évidence une méthode exégétique, une méthode de lecture très particulière qui est l'analyse narrative, qui est présentée ici d'une manière assez technique. Donc lire ce livre peut être une bonne occasion de se familiariser avec cette approche des textes par l'analyse narrative qui est très actuelle. Mais c'est aussi un livre utile pour aborder une réflexion approfondie sur la nécessité vitale des paroles et des actes de bénédiction dans nos vies. Il nous relie à la vie même de Dieu par une volonté de dire le bien, selon l'étymologie du mot, c'est-à-dire transmettre la bienveillance de Dieu et son alliance avec tous les hommes. Vous trouverez donc ce livre « L'intrigante bénédiction » de Claude Lichter à la Bibliothèque diocésaine rue Saint-Aimant à Chartres. Et ainsi se termine notre émission et je vous dis à très bientôt, chers auditeurs. Thank you.